11h30 midi sur RTL, chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Allô, ici Bouvard. Allô, Philippe Bouvard, vous êtes là ?
Oui, Virginie, bien sûr, je suis là. Je suis là, un peu loin de vous, mais enfin, la radio a le mérite de rapprocher les gens, rapprocher ceux qui font de la radio, bah, comme nous, et puis les rapprocher surtout de ceux qui écoutent la radio. Et ça, c'est notre vœu le plus cher. Alors, une question que l'intéressé doit se poser plus que nous, mais enfin, bon, on s'intéresse à tout ce qui se passe sur la planète et particulièrement aux gens qui étaient des privilégiés et qui risquent de perdre tout ou partie de leurs privilèges. Qui est le cas de Carlos Ghosn, parce que sa démission forcée pourrait entraîner sa ruine. Alors, bon, je sais, ça a été pendant 20 ans, et 20 ans, c'est pas rien, un des patrons les plus payés du monde. Bon, il faut dire aussi qu'il avait hissé ce conglomérat qui réunissait Renault, Nissan et Mitsubishi tout en haut de la production industrielle. Puis bon, il est arrivé des imprudences fiscales, il est tombé sur des Japonais dont la justice est particulièrement intransigeante pour les mauvais contribuables. Et aujourd'hui, on se demande s'il va conserver de quoi vivre. Bon, on ne s'inquiète pas quand même, parce qu'il a dû prévoir ses arrières, mais, il a d'abord une prime de départ de 30 millions. Mais cette prime, elle est soumise à l'avis d'un autre conseil d'administration qui se tiendra au mois de juin prochain et où l'État français, il faut quand même le rappeler, disposera d'un droit de vote de 22%. Si y a des actionnaires qui considèrent qu'on peut faire des économies et que M. Ghosn a déjà suffisamment touché, bon, ben, ça lui passera sous le nez. Et puis, c'est pas tout, parce que il n'a pas perçu les dividendes de ces 5 dernières années, qui ont été constitués par des actions qu'on a mises de côté. Les accords prévoient qu'il pourra aussi toucher ces millions, parce qu'évidemment, on compte en millions, hein, on ne compte pas en milliers de francs, il pourra les toucher à condition, dit le texte, qu'il reste présent dans l'entreprise, c'est-à-dire chez Renault. Ce qui n'est pas exactement le cas d'un dirigeant de haut niveau qu'on vient de pousser vers la porte. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est deux fois président, parce que ce Jean-Dominique Sénard est, à l'heure où nous parlons, à la fois le président de Michelin depuis plusieurs années et à la satisfaction générale, et le nouveau président de Renault. Alors, il va cumuler ces deux présidences jusqu'en mai prochain, et je ne sais pas d'ailleurs s'il cumulera les salaires. Mais ça ne me regarde pas et vous non plus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens de Renault n'ont pas à s'inquiéter parce que c'est un homme paisible, raisonnable, dont le train de vie n'a rien à voir avec celui de M. Ghosn. Il a une seule propriété connue qui est un château près de Saint-Rémy de Provence, mais c'est une propriété de famille depuis 1677. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui est habitué à la fortune et qui ne doit pas mettre ses propriétés personnelles à la charge de ses entreprises. Alors que je vous rappelle que Ghosn avait une maison à Paris, une maison à Amsterdam, une maison à Beyrouth, une maison à Rio de Janeiro et que toutes ces maisons étaient à la charge de Renault, ainsi que le salaire de la petite sœur, qui ne faisait pas grand-chose. Bon. Mais enfin, qui était la sœur d'un frère qui avait magnifiquement réussi. Enfin, réussi jusque-là. Alors, il y en a un qui s'en tire très bien, c'est Thierry Bolloré. Parce que Thierry Bolloré, il était le dauphin désigné de Carlos Ghosn. Et aujourd'hui, tout laisse à penser qu'il sera sans doute le dauphin de M. Sénard. Parce que M. Bolloré a 10 ans de moins que M. Sénard. Donc, mécaniquement, c'est à lui que profitera ce jeu de chaises industrielles En tout cas, on attend du tandem ainsi constitué qu'il reconstitue la fameuse alliance entre Renault et Nissan. Ce qui ne doit pas être toujours le vœu des méchants japonais. L'accès à la publicité des professions médicales, et là, il faut penser aux médecins, aux chirurgiens dentistes, mais aussi aux kinés et aux infirmiers, va-t-il aiguiser la concurrence? Eh bien, je vais poser la question à Madame Isabelle de Silva, qui est la présidente de l'autorité de la concurrence. C'est nouveau, bonjour Madame, c'est nouveau cet accès?
Oui, bonjour Monsieur Bouvard. La question de l'accès à la publicité pour les professions médicales est maintenant posée, comme il l'a été il y a quelques années pour les professions juridiques d'ailleurs. Les professions médicales vont devoir revoir les règles aujourd'hui applicables pour prévoir et encadrer la publicité, mais on ne peut plus maintenir des interdictions totales de publicité compte tenu du droit européen.
Alors, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelait naguère de la réclame, il s'agit de donner des indications précises sur des compétences du praticien, sur le matériel qu'il emploie, sur ses capacités linguistiques. Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à ce qu'un généraliste garantisse pas plus d'un quart d'heure d'attente à sa consultation ou qu'un chirurgien dentiste dise qu'il est le plus doux des chirurgiens dentistes?
Alors, vous avez parfaitement raison, il y a beaucoup de questions à résoudre qui concernent ce qu'on pourrait dire par exemple dans un affichage dans le cabinet médical, qui concernent aussi ce qu'on peut indiquer sur un site internet ou dans ses locaux, quelle capacité on peut mettre en avant, une spécialisation ou des éléments en rapport avec la pratique médicale.
Alors l'autorité que vous présidez, elle a été fondée en 2009, elle exerce à la fois un pouvoir de contrôle et de sanctions, et des sanctions qui peuvent se chiffrer en millions d'euros, hein.
C'est vrai qu'il y a eu des sanctions très importantes, parfois qui pouvaient atteindre 900 millions d'euros pour un grand nombre d'entreprises. Donc effectivement, les sanctions peuvent être très élevées. Parfois aussi dans des affaires qui concernent des PME ou des ordres professionnels, les sanctions sont bien sûr beaucoup moins importantes. Nous essayons à chaque fois de fixer la sanction en proportion du chiffre d'affaires de l'organisme et de la gravité des infractions.
Alors en quoi résident exactement ces pratiques anticoncurrentielles que vous traquez avec une centaine de rapporteurs? Est-ce qu'il s'agit d'ententes illicites? Est-ce qu'il s'agit de publicités comparatives?
Alors, il y a beaucoup de cas de figure. Les ententes, ça reste un grand classique et un type d'infraction que nous poursuivons et sanctionnons souvent. Il y a quelques semaines, nous avons rendu une décision de sanction importante suite à une entente qui avait été mise en œuvre entre les fabricants de produits électroménagers. Il y a quelques mois encore, des produits de revêtement de sol. Après, il y a d'autres pratiques. Par exemple, dans le passé, il y a eu des pratiques de boycott au sein de certaines professions qui voulaient interdire l'accès à telle ou telle catégorie professionnelle.
C'est ce que vous appelez l'abus de position dominante.
Alors ça peut être effectivement soit des accords mis en œuvre pour empêcher les concurrents de pénétrer sur un marché, et puis il peut y avoir effectivement les abus de position dominante qui eux sont mis en œuvre par des entreprises qui sont très puissantes sur un marché et qui abusent de cette position pour freiner l'arrivée des concurrents par exemple ou déséquilibrer la concurrence.
Est-ce que vous êtes intervenue, Madame la Présidente, au moment où on s'est préoccupé du litige, du contentieux entre les taxis et les VTC?
Alors tout à fait, nous avions été saisis par le gouvernement des nouvelles règles que le gouvernement entendait mettre en œuvre pour résoudre cette question de l'arrivée des VTC. À l'époque, nous avions alerté le gouvernement sur une règle qui nous paraissait nuisible pour la concurrence, qui voulait imposer aux VTC d'attendre un quart d'heure avant de rejoindre le client. Nous avions indiqué que ça ne nous semblait pas conforme à l'idée qu'une certaine concurrence était saine entre les taxis et les VTC. Depuis, cette disposition a été annulée par le Conseil d'État. Donc, dans notre rôle de conseil au gouvernement, lorsque nous voyons une disposition réglementaire qui ne nous semble pas propice à la concurrence, nous le signalons et ensuite le gouvernement prend bien sûr ses décisions.
Est-ce qu'on est en train de préparer, et notamment dans l'instance que vous présidez, la fin des super promos?
Alors, la loi qui a été votée au Parlement suite aux États généraux de l'alimentation, effectivement, elle prévoit une interdiction des promotions avec un plafond. Ça ne pourra pas être au-delà de 33%. Nous avons indiqué d'ailleurs dans notre avis au gouvernement que nous étions un petit peu réservés sur ce dispositif qui nous semblait de nature à augmenter les prix pour le consommateur sans forcément avoir tous les bénéfices qu'on en attend.
Oui, parce que la super promo, bon, c'est évident. Évidemment, un argument commercial, mais ça profite aux clients.
Bien sûr, et voilà. Donc nous avons indiqué qu'à la fois il pouvait y avoir un risque pour le consommateur qui paierait les produits plus chers, et puis un risque aussi de diminution de la concurrence. En pratique, lorsque la loi va devoir être appliquée par les distributeurs, ce qui ne sera sans doute pas tout à fait simple, ça sera la DGCCRF qui sera principalement chargée de vérifier l'application dans les différents points de vente pour s'assurer que la loi nouvelle est bien appliquée partout.
Est-ce que la concurrence, ce sera ma dernière question, entre médias audiovisuels ou autres existe?
Alors, la concurrence existe et elle est très, très importante. D'ailleurs, nous allons rendre dans les toutes prochaines semaines un avis qui se prononce sur le nouveau paysage audiovisuel avec l'arrivée des nouveaux géants d'Internet, notamment Netflix ou Amazon, et dans lequel nous ferons des propositions fortes au gouvernement pour remettre à plat le cadre audiovisuel, pour prendre en compte ces changements extrêmement profonds avec une concurrence tout à fait vive qui doit remettre en cause sans doute l'équilibre qui date maintenant de plusieurs années sur la loi audiovisuelle.
Merci Madame de Silva, merci beaucoup.
Merci Monsieur Bouvard.
Alors une question qui vous a peut-être brûlé les lèvres ou en tout cas traversé la cervelle. Pourquoi la famille royale britannique n'a-t-elle pas pris position sur le Brexit? Voilà. Pourquoi? Parce que la tradition et la loi disposent qu'elle doit rester au-dessus de la mêlée politique. Alors pour ça, ben, on a trouvé un moyen de ne pas compromettre la reine, les héritiers du trône et toute la petite smala qui l'entoure, en leur retirant le droit de vote, ou plus exactement, en ne le leur accordant pas. Alors, la reine ne vote pas, ainsi que les 26 membres de la famille royale, et je vous signale au passage, ainsi que les lords, et ainsi que les prisonniers. Bon, mais ça, c'est moins glorieux. Alors, la reine, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Simplement, tous les matins, on dépose sur son bureau, dans le château où elle réside, une boîte rouge qui contient les documents qui servent de repères sur la marche de l'État et les grands problèmes. Elle ne fait jamais aucune déclaration, elle réserve son opinion personnelle au Premier ministre qu'elle reçoit traditionnellement tous les mercredis à 18h. Et je vous signale qu'en 67 ans de règne, elle en est à son 13e Premier ministre, une chaîne dont le premier maillon avait été Winston Churchill, qui évidemment a pris soignait beaucoup la jeune souveraine. Elle a beaucoup de pouvoir, la reine, mais elle n'en abuse pas. Hein. Elle désigne le Premier ministre, elle révoque les membres du gouvernement, elle doit donner son feu vert à toutes les lois lorsqu'elles sont votées. On sait seulement, sur le plan politique, que sa préférence va à une droite modérée. Mais c'est tout. On n'en sait pas plus. Hein. Alors, je crois qu'elle s'entend pas mal avec Theresa May. Alors, aujourd'hui, la reine a réduit un peu son train de vie. Son yacht, le fameux Britannia, a été transformé en musée. Il prend plus la mer, donc il coûte plus rien aux contribuables. Mais elle a conservé son train spécial. Bon, enfin, elle n'en abuse pas non plus. Et puis alors, elle a sa famille. Alors, le prince consort, qui a 97 ans et qui s'est complètement retiré de la vie publique. Charles, qui a 70 ans, qui trépigne en attendant d'avoir le sceptre, mais qui remplace de plus souvent sa royale maman. Alors, si jamais elle avait besoin d'argent, bon, bah, elle pourrait se souvenir qu'elle est également propriétaire des esturgeons, des baleines, des cygnes de la Tamise et pourquoi pas ouvrir une chaîne de poissonnerie. pour l'heure, elle est en très bonne santé, tout va bien. Si jamais Theresa May ou la personne qui lui succédera à la tête du gouvernement recevait un message ainsi conçu, le pont de Londres est en panne, eh bien ça voudrait dire que la reine Elisabeth n'est plus. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de mariages et de moins en moins d'enfants ? Je vais interroger sur cette contradiction apparente Gilles Pison, qui est un éminent démographe, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour, Monsieur Pison.
Bonjour.
Alors, ça, évidemment, ça vous surprend moins que nous. D'abord, le nombre des mariages a remonté de façon significative, mais on dit que ce sont des mariages tardifs et que les mariés sont plus âgés et que, évidemment, la procréation exigerait des unions plus jeunes.
D'une part, naissance et mariage sont maintenant déconnectés. Hein. D'abord, les mariages sont précédés presque tous d'une vie en couple, non mariée. Et le mariage, c'est un peu pour faire une fête, pour montrer à tous, aux amis, à l'entourage, qu'on s'est engagé, qu'on forme un couple. Mais le lien entre les naissances et le mariage est maintenant ténu. Le mariage, souvent, il suit de plus en plus une, voire plusieurs naissances. Hein. Et tous les couples qui ont des enfants ne se marient pas. Donc, autrefois, c'est vrai que les naissances commençaient après le mariage. Là, c'est plus le cas. Et près de 60% des enfants qui naissent aujourd'hui naissent de parents non mariés.
Il y a aussi le fait qu'il y a un refus d'enfants et qui émane parfois des écolos et avec un slogan qui est redoutable et peut-être un peu forcé puisqu'il prend en compte le fait de mettre au monde des enfants dans ce que les écolos appellent une poubelle. Donc on est découragé parce qu'il n'y a pas d'avenir pour le genre humain.
Alors, pour l'instant, en France, c'est un mouvement très minoritaire et puis c'est des préconisations qui ne sont pas suivies des faits. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, mettent au monde 2 enfants en moyenne chacune, comme leur mère il y a 30 ans. Donc, il n'y a pas de changement dans le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde. La grande différence, c'est qu'elles les ont aujourd'hui 4 ans plus tard dans leur vie que leur mère.
Il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que le taux de fécondité des Françaises nous place encore en tête des partenaires européens.
Exactement. Et puis, si vous voulez, si on regarde sur le long terme, il y a la stabilité de la fécondité depuis la fin du baby-boom, depuis plus de 40 ans. Hein.
Est-ce que la crise économique, les incertitudes politiques, la dégradation du quotient familial, la baisse des allocations ne sont pas pour quelque chose dans le frein à la natalité ?
Alors, pour ce qui est de l'effet de la crise économique, puisque depuis 2008, là, il y a eu la crise financière, la crise économique, et on pensait que ça aurait un effet sur les naissances. Pendant plusieurs années, ça n'en a pas eu vraiment en France, alors que dans beaucoup d'autres pays développés, les naissances, la fécondité ont baissé. Alors, en France, on peut dire que la conjoncture économique n'est pas favorable, et qu'elle explique peut-être une partie de la baisse de l'indicateur de fécondité de l'année depuis quelques années. Mais cette baisse, si on compare la France aux autres pays, elle est plus modeste qu'ailleurs. Si vous voulez, depuis 10 ans, l'indicateur de fécondité, il a baissé de 15% aux États-Unis. Il a baissé de 11% au Royaume-Uni. En France, il n'a baissé que de 6%.
Enfin, dernière question. Les 100 millions de Français, c'est pour quand ?
Ce n'est pas pour l'immédiat. Hein. C'est difficile de faire des projections. Peut-être que ça ne sera jamais, on ne sait pas. Disons que déjà à l'horizon 2060-2070, les projections moyennes de l'INSEE annoncent 70 millions, 75 millions d'habitants, ce qui est déjà encore plus qu'aujourd'hui. Donc, voilà.
Bon, donc pas d'inquiétude, tout va bien chez nous et en tout cas un peu mieux qu'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Merci, Monsieur Pison.
Au revoir.
Au revoir. Alors l'expression de la semaine, on la doit au défenseur des droits, au ministre de l'Intérieur et à son secrétaire d'État, et puis naturellement à tous les journalistes qui se sont engouffrés dans la brèche. C'est le pistolet LBD, c'est-à-dire le lanceur de balles de défense. Alors c'est quelque chose d'assez redoutable, puisque il y a eu des accidents graves. Enfin bon, c'est pas un pistolet d'enfant non plus, hein. Et j'imagine qu'on s'en sert lorsque la situation devient très tendue. Alors, pour calmer les esprits et peut-être pour que on réduise le nombre des accidents, on a décidé en haut lieu d'équiper chaque pistolet avec une petite caméra. À moins que j'ai mal compris et que on ait décidé de jumeler les caméras avec un pistolet. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'en plus de l'image, on aura le son, ainsi qu'un petit film souvenir pour le tireur et pour le tirer quand il s'agira d'évoquer en justice ou pour les historiens les moments les plus durs de ces millésimes troublés. Et puis alors, ne sous-estimons pas le renfort de vidéos que ça va apporter à Internet, hein, parce que des vidéos au grand public, on pourra au coin du feu suivre ces échanges de balles qui, hélas, n'ont plus rien à voir avec le tennis ou avec le foot.